En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Les hommes croient que le ciel leur appartient. Pourtant, un groupe de pilotes d'élite suscite encore la jalousie de toutes les forces aériennes.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Les rapaces.
La curiosité est un vilain défaut.
Aucune machine n'égale la précision avec laquelle ils visent leur cible, ni l'agilité de leurs ailes.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
C'est un animal fascinant et rare qu'on va observer dans la curiosité, l'aigle. Et pour raconter ses secrets, les secrets de son espèce et de son quotidien, un homme qu'on a adoré recevoir dans la curiosité, c'est le réalisateur Jean-Michel Bertrand. Bonsoir.
Bonsoir. Merci. Merci de m'accueillir.
Alors, on est très heureux que vous soyez de retour.
Bah oui, vous étiez venu nous parler de ces loups avec lesquels vous aviez passé plusieurs années, qui a donné ce très beau film que l'on peut voir encore. La ouais. Vallée des loups, et que vous présentez un petit peu partout en France. Et bien avant cette aventure, vous étiez allé passer du temps, parce que c'est votre truc à vous, de passer du temps avec les animaux, parce qu'il faut du temps pour les voir, avec les aigles. C'était où et quand votre première rencontre, et j'allais dire votre premier regard, mais ça ne doit pas être facile, avec un aigle?
En fait, c'était pas loin de chez moi, justement, et c'est là tout le plaisir, en fait, c'est que c'était pas loin de la maison, c'était dans le département des Hautes-Alpes, pas loin de cette vallée du Champsaur qui m'a vu naître. Et en fait, j'ai fait une petite erreur dans ma vie, c'est que j'ai voyagé pendant 25 ans. En fait, je suis parti aux quatre coins du monde. En fait, c'était pas une vraie erreur, hein, mais c'était
une chance.
C'était une chance et c'était de belles aventures avec les Mongols ou ailleurs. Mais j'ai toujours eu dans la tête ce rêve de l'aigle royal. Parce que lorsque j'étais enfant, quand on avait vu un aigle, on avait tout vu. C'était l'oiseau rarissime, c'était le Graal, parce que l'espèce était vraiment en voie de disparition. Et depuis leur protection intégrale dans les années 70, l'espèce s'est reconstituée, les territoires ont été à nouveau colonisés. Et je me suis dit à un moment donné, j'arrête de voyager, je reviens faire le voyage ultime à essayer de réaliser cette quête de l'oiseau de mes rêves. Quoi.
Et vous en avez fait un film qui s'appelle Vertige, d'une rencontre qu'on peut trouver en DVD aujourd'hui. Combien de temps d'observation pour raconter la vie de ces aigles royaux et pour les voir?
Alors sur le terrain, franchement, près de 3 ans sur le terrain. En fait, ça s'est étalé sur 5 ans parce que je continuais au début de ce tournage à voyager. Et puis à un moment, j'ai complètement arrêté. Quoi. Je me suis dit, je me lance là-dedans, je fais ce film pour le cinéma. Et pareil, on était dans une espèce de rêve à réaliser, d'urgence, on va dire. Je ne me suis même pas posé la question, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que ça ne l'est pas? Il fallait que je le fasse. Ça faisait partie de mon équilibre, de moi-même. Quoi. Voilà ce qui s'est passé avec les aigles.
Et pour bien comprendre cette passion, on écoute un premier extrait de votre film.
J'ai toujours été fasciné par l'aigle royal et ses 2,20 m d'envergure. Mais il est tellement imprévisible, tellement farouche. Alors, pour essayer de comprendre, pour mieux le connaître, j'y passe des jours et des jours, un temps incroyable. Pour moi, un immense pas a été franchi, mais rien n'est gagné. L'air que l'aigle m'a montré s'avère impossible à filmer dans de bonnes conditions, sans risquer de déranger la nichée. Mais rien n'est perdu, car les aigles disposent de plusieurs aires et en changent souvent. Il me reste donc à espérer que l'année prochaine, ils choisiront la bonne.
Alors, on retrouve la tonalité de votre film sur les loups, c'est-à-dire cette volonté de les observer, de partager leur quotidien, et en même temps, de ne surtout pas les déranger, hein, et d'être le plus discret possible. Pourquoi est-ce qu'ils sont si difficiles à filmer, les aigles? Moi, j'ai une première réponse. Il faut monter très haut, j'imagine, mais pourquoi?
Eh bien, il ne faut pas monter si haut que ça, en fait. Oui. Parce qu'en fait, bon, ils volent très haut, ils sont capables de parcourir d'immenses distances en volant, mais ils nichent dans la forêt, à 1600, 1700 mètres d'altitude. D'accord. Et dans des falaises, en fait, hein, qui sont dans la forêt. Alors certains peuvent construire leur aire sur des arbres, mais c'est quand même assez rare. Et en fait, on a toujours l'impression que l'aigle va nicher au sommet des montagnes, sur des pics vertigineux. En fait, il niche dans des falaises très vertigineuses, mais toujours au-dessous des territoires de chasse. Ce qui fait que quand ils vont chasser les marmottes, par exemple, ben, ils redescendent pour amener la marmotte au nid. C'est beaucoup plus facile que de la monter au-dessus. Mmh. Voilà.
Ah, c'est bien, quoi. C'est
voilà.
Bien conçu. Hein.
Ben, c'est assez
intelligent,
logique.
Hein,
ben, c'est assez logique, quoi.
Vous employez, on entendait dans cet extrait de votre film, Jean-Michel Bertrand, ce mot « air ». Ils ont des airs, leurs airs à eux. C'est quoi ces airs? C'est leur espace de vie? C'est comme nos apparts à nous, nos quartiers?
Non, en fait, leur espace de vie, c'est le territoire. En fait, l'air, c'est le nid. C'est le nom qu'on donne au nid des aigles.
Mais c'est écrit comment?
A-I-R-E.
D'accord.
Une aire d'aigle. Voilà, une aire d'aigle, c'est un nid d'aigle. Mmh. Et en fait, c'est un peu comme, ben, c'est un nid, comme tous les nids des oiseaux, c'est-à-dire qu'ils se servent de ce nid uniquement pour la reproduction, pour pondre leurs œufs. Les petits éclosent. Bon, ils vont rester plus longtemps que des roitelets ou des mésanges, évidemment. Un mois de couvaison, et puis après 80 jours avant que l'aiglon puisse s'envoler. Mais c'est vraiment l'endroit pour les pondre les œufs et élever les petits.
Jean-Michel Bertrand, pour comprendre un peu le défi que vous vous étiez lancé pour pouvoir rencontrer, filmer ces aigles, le territoire d'un aigle, ça représente quoi ?
Alors, le territoire d'un aigle, ça dépend aussi de la nourriture. Finalement, vous savez, tous les grands prédateurs, comme les loups d'ailleurs, les aigles sont régulés par les quantités de nourriture. Mmh. Et ils sont très territoriaux. Alors, un territoire d'aigle, en général, c'est 70 km² s'il y a beaucoup de nourriture. Ça peut aller jusqu'à 100-120 km² s'il y a moins de nourriture. Donc, c'est quand même pas mal. Et donc, ça, c'est vraiment...
beaucoup plus, pardon, je vous interromps, beaucoup plus que celui d'une meute de loups, par exemple.
Non, le loup, ça peut aller 300 à 400 km².
Ah oui,
c'est
beaucoup plus grand.
C'est encore plus. Mais ce qu'il y a, c'est que les loups, il leur faut plus de nourriture. Ils sont ensemble, il y a la famille, la meute. Donc là, ils ne se nourrissent pas uniquement de marmottes. Mmh. Les aigles se nourrissent quand même d'animaux plus petits, évidemment.
Est-ce que l'aigle défend son territoire ?
Exactement, ça c'est la question. Voilà, c'est la question parce que tous ces grands prédateurs sont hyper territoriaux. C'est-à-dire que leur boulot à eux, c'est de défendre leur territoire. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont vraiment deux vies, quoi. Ils ont une vie de jeunesse qui est faite d'errance pour chercher justement un territoire disponible et un compagnon, une compagne selon leur sexe. Et une fois qu'ils ont trouvé le territoire, là ils vont s'installer sur ce territoire en couple et vont le défendre bec et ongle, si j'ose dire.
Mais quand ils vous voient débarquer, ben oui. Jean-Michel Bertrand, avec votre matériel, votre casquette, votre doudoune, là ils vous repèrent direct.
Et bien justement, le but c'est qu'ils ne me voient pas. Alors autant avec les loups, ça a été tout un système de me faire tolérer par les loups parce qu'ils ont l'odorat. Mais les aigles n'ont pas l'odorat. Ils ont la vue. Alors la vue...
Quelle vue ?
Ah, c'est chaud, là. Chez les aigles, vraiment, quoi. Ils sont capables de repérer une marmotte à des kilomètres, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc, en fait, le but, c'est de me tenir très, très loin, avec une lunette, avec une longue vue, et d'observer un petit peu leur manège, leur vol, et essayer de comprendre leur fonctionnement sur le territoire. Donc là, je me tiens très loin, je ne suis pas du tout dangereux pour eux. On va dire, voilà, c'est un petit gars là-bas qui est à 2 km ou à 3 km, pas de souci. Et puis quand j'ai commencé à comprendre où ils se posaient, leur reposoir, leur truc, leur machin, alors là, je monte de nuit, parce que de nuit, les aigles roupillent, ils sont tranquilles. En plus, il leur faut des ascendants hein, pour voler, il leur faut des bonnes conditions. Donc, comme dit mon copain Koulumi, qui est un spécialiste des aigles aussi, il dit l'aigle, c'est fait pour les lève-tard. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que voilà, tant qu'il n'y a pas de thermiques qui peuvent les aider à voler, ils restent plutôt posés. Donc, je monte de nuit. Il ne me voit pas. Je me cache sous un espèce d'affût ou dans une grotte. Enfin, j'ai des systèmes un peu improbables. Et après, je suis invisible. J'ai juste mon petit objectif qui dépasse. Et je suis un voyeur. Et ça, j'adore. Parce que là, je ne les dérange pas.
On se camoufle, on retient notre respiration, on observe. L'aigle royal dans son milieu naturel, vaste, en compagnie du réalisateur Jean-Michel Bertrand. Vous en avez fait un film de ces moments, de ces mois, de ces années passées à scruter les aigles. Vertige d'une rencontre, il est disponible en DVD et on vous le conseille sur RTL. Et donc dans cette quête, dans ce défi, vous n'étiez pas seul, il y avait un âne. Alors d'abord, il faut nous le présenter. Est-ce qu'il avait un petit nom, votre âne ?
Devinez.
Bourriquet ?
Mais oui. Non,
mais... Ah, si j'avais eu un âne, je l'aurais appelé comme ça.
Hein, alors là, et je peux vous promettre, je le dis aux auditeurs, on ne s'est pas concerté. Voilà, c'est Bourriquet. Bon. Et c'est mon fils qui lui avait donné, évidemment, ce prénom. Et Bourriquet, il m'a beaucoup aidé, mais ça a été une relation incroyable. Parce qu'en fait, le problème du.
Il s'ennuyait, Bourriquet ? Vous l'avez emmené pourquoi ?
Je l'ai emmené pour bosser. Hein.
Pour porter
le matos. Pour porter le matos. Alors, mais le problème, c'est que Bourriquet était vraiment un âne, comme tous les ânes, très volontaire. Très attachant. En fait, les ânes, c'est un peu comme les chiens. On n'a pas du tout la même relation avec les chevaux qu'avec les ânes. Moi, j'ai des chevaux, j'ai eu cet âne. Et en fait, l'âne, c'est sentimental. Il y a tout un côté affectif et tout. Donc, c'est un peu comme un chien. Et cet âne m'a accompagné pour porter mon matériel. Et ce qui était fou, c'est qu'à la montée, ça se passait plutôt pas mal. Parce qu'il portait quand même 40 kilos ou 50 kilos de matériel. Mais le problème, c'est à la descente.
C'est vous qui avez tout porté ?
Lui, il avait du mal à supporter ses 40 ou 50 kilos. Parce qu'en fait, moi, quand je monte, j'ai mon matos de cinéma, mais je le laisse pas toujours là-haut. Je dois le redescendre.
Bien
donc,
sûr.
Ça pèse pareil à la descente. Et du coup, autant les ânes, quand ils font faire des portages de nourriture ou des choses comme ça, ils redescendent à vide. Voilà. Et là, c'était un souci. Donc, Bourriquet, ben, il y a un moment où j'ai vu qu'il, ben, qu'il souffrait. Et c'est vrai que c'est un moment qui est émouvant dans le film et qui m'a beaucoup touché parce que on voyait qu'il était, ben, qu'il avait envie, mais qu'il, ben, qu'il en pouvait plus, quoi. Donc, évidemment, j'ai pas voulu bousculer et je l'ai laissé à sa retraite avec d'autres ânes chez un copain. Mmh. Et ben là, il a passé une belle retraite, je peux vous le dire. Ouais. Et après, j'ai utilisé un cheval, justement.
Est-ce qu'il faut être un bon alpiniste, forcément, pour pouvoir filmer les aigles ?
Ouais, quand même. Enfin, il faut aimer la montagne, il faut aimer marcher, il ne faut pas avoir peur du vide, parce que des fois, moi, je me tiens au bord de certains pitons et tout ça. Moi, j'adore. Hein. Au plus, il y a du gaz, comme on dit chez nous. Au plus, il y a du gaz sous mes pieds, au plus, je me sens vivre et ça me plaît. Donc, oui, il faut quand même être montagnard, on
va dire. Mais vous, pour l'Anki, combien d'heures pour espérer voir le vol d'un aigle ?
Bon, c'est des jours et des jours. C'est
des jours sans rien voir.
Des tas de jours sans rien voir. Parce qu'en fait, ce qui est fou avec l'aigle, j'ai même du mal à en parler maintenant parce que je connais, on va dire, l'adresse aujourd'hui. Je connais l'adresse du nid, l'adresse de l'air. Et donc, je me dis, mais comment tu as pu autant galérer pour trouver ce nid, quoi? Et c'est vrai que quand on le sait, évidemment, mais après on se dit, mais t'es trop bête, quoi, de pas avoir trouvé ça avant. Mais quand on ne sait rien, parce que moi, mon but, c'est ça. C'est toujours un parcours initiatique personnel. Parce que, comme, voilà, c'est ce qui est intéressant, en fait, c'est la découverte. Si on vous dit, bah, il y a un aigle qui niche là, va le filmer, moi, j'y vais même pas, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître tout ça. Et donc, il faut passer énormément de temps pour comprendre le fonctionnement des aigles, pour savoir leur reposoir aussi, là où ils se posent volontiers, là où ils aiment se poser, que selon le vent, si le vent vient du nord
le
ou
reposoir,
du sud.
Le reposoir, c'est par exemple leur bar préféré, c'est ça, quoi.
C'est tout
le
à fait ça, c'est le bistrot. Non, mais c'est vraiment régulier, quoi. Alors, il y a des crottes, il y a des fientes, il y a des plumes, des magnifiques plumes d'aigle que j'ai trouvées des fois. Et donc, pour connaître un reposoir, mais ça peut être un an d'observation, mais franchement. Alors après, quand on le connaît, qu'on l'a bien capté, moi je reconnais 4 reposoirs autour du nid, là, et tout, maintenant, je peux vous faire visiter ça très facilement. Mais ça a
été... Et ça, ça ne dérange pas les aigles ?
Non, parce que je regarde de très loin.
D'accord.
Et en revanche, après, une fois que j'ai tout compris, que je me dis, voilà, le fonctionnement est là, je fais le système, je monte de nuit au moment
D'accord,
où il pleut ou quoi, ce que je racontais tout à l'heure.
Alors, pourquoi l'aigle royal ? Parce que c'est le plus beau, le plus représentatif de cette espèce ?
Ben, on l'appelle comme ça en France, en Angleterre, c'est Golden Eagle, c'est l'aigle doré parce qu'il a des plumes un peu dorées sur la nuque, très très belles.
Mais pourquoi vous l'avez choisi ?
Ah, moi, je l'ai choisi parce que ben, chez nous, c'est le rapace mythique. C'est, comme je disais, l'inaccessible. C'est quand même voir un aigle en vol, voir un aigle voler, voir un aigle faire le vol en feston, comme on appelle, c'est-à-dire piquer, faire des ressources incroyables. Je ne sais pas combien de jets ils se prennent dans la figure, mais c'est colossal.
Ils voient combien ?
Plus de 200 à l'heure.
Oh.
Ouais, c'est un oiseau qui pèse 3 ou 4 kilos. Bon, c'est pas très lourd, hein, c'est pas non plus un dindon, mais il y a beaucoup de plumes. Voilà, c'est un oiseau, donc il est assez léger, 3-4 kilos, et il va piquer à 200 à l'heure pour aller capturer une marmotte, et il rate à peu près 7 fois sur 10. Il faut le savoir aussi, ça.
Bah, je croyais qu'il avait une super vue.
Bah, il a une super vue, mais la marmotte, elle est aguerrie aussi, elle a des super pattes, ouais, et elle a les copines aussi qui sifflent.
Est-ce que vous reconnaissez ce bruit, là ?
Oui, c'est le glatissement.
Pas glapissement, glatissement.
Glatti. En fait, moi, je dis, il crie.
Là, il crie quoi ? Il est pas content, l'aigle royal ou...
ouais, là, c'est parce qu'en général, quand il fait ça, soit c'est les jeunes qui en appellent aux adultes parce qu'ils viennent de quitter le nid, qu'ils sont en train d'apprendre à voler, à chasser.
Ils ont besoin d'argent.
Et voilà, exact. Mais c'est tout à fait ça. Je veux l'argent de poche, s'il te plaît. Papa, maman, déconnez pas, donnez-moi l'argent de poche. Et puis, il y a le moment où, de l'amour, de la parade nuptiale, de la séduction au mois de mars. Alors là, qui fait ses fameux vols en feston pour dire aux autres aigles qui sont peut-être à 10 km. Hein, et qui voient, parce qu'avec leur vue, c'est de la folie, ils sont en train de dire aux autres aigles, attendez les gars, là, on est chez nous, et donc le vol en feston est vraiment une manifestation territoriale, et hyper spectaculaire, et souvent, quand ils volent en feston, comme ça, au moment des parades nuptiales, ils communiquent aussi en criant, en glatissant.
C'est l'un des oiseaux les plus extraordinaires de notre faune que l'on observe grâce à notre invité qui les a guettés pendant plus de 3 ans, Jean-Michel Bertrand. Vous nous disiez que vous alliez très haut dans la montagne, il fallait s'abriter, parfois sur des pitons. C'est un métier plutôt dangereux, observateur d'aigles. Est-ce que vous avez pris de gros risques ?
Ben c'est vraiment vraiment les risques inhérents à la montagne. Voilà. On va dire qu'on prend les mêmes risques que les gens qui vont faire de la montagne.
Donc glisser, orage.
Voilà, on peut se faire... Bon, l'orage déjà, il faut faire attention parce que là, ça peut vraiment ne pas pardonner. Et moi, j'ai toujours eu peur de l'orage parce que j'ai failli me faire foudroyer quand j'étais adolescent. Ça m'a coupé un mélèze à 10 mètres. Je peux vous dire, un mélèze qui faisait 70 cm de diamètre. Enfin, le truc, enfin, c'était vraiment impressionnant. Donc, j'ai toujours eu peur de l'orage. Il faut savoir se mettre à peu près. Enfin, ça, c'est vraiment au feeling, quoi, pour se protéger. Il y a les chutes de pierres, il y a les avalanches. Donc, il n'y a rien d'héroïque dans tout ça. C'est juste ne pas être trop gourmand, ne pas aller au-delà de ses possibilités et puis au-delà des conditions météo aussi.
Et un aigle qui vous prend pour une marmotte, par exemple?
Ah, ça, j'adorerais. J'adorerais qu'un aigle
me prenne pour une marmotte. Non, mais qui
vous attaque? Non, l'aigle ne peut pas attaquer, justement. Et en plus, il est tellement farouche. En fait, tout le travail, c'est de se cacher pour ne pas que l'aigle vous capte. En fait, s'il vous capte, il s'en va. Et il peut même abandonner ses petits, il peut abandonner ses œufs, ses petits. C'est pour ça que c'est très délicat de s'approcher des aires d'aigle. Des nids. Il faut vraiment faire ça avec délicatesse et quand les conditions sont optimales, la chance que j'ai pu avoir dans le film. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai trouvé un nid. J'étais trop heureux, le premier que je trouve. Malheureusement, il était très exposé. Enfin, il me voyait arriver, quoi. Donc, je ne pouvais pas m'approcher. Sinon, il y avait le risque de dérangement. Et du coup, j'ai dû attendre une année entière. Non, mais c'est ça qui est fabuleux dans ce boulot. Moi, j'adore.
L'humilité
le temps.
De l'homme.
Mais c'est ça. Aujourd'hui, on est complètement...
Moi, j'en connais des impatients qui doivent se dire « Mais il est dingue. »
Mais ouais, mais moi, j'adore.
Vous avez protégé ces aigles en faisant ça, en étant patient?
Ah ben, on est obligé parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. On n'a pas, pour une image, on ne va quand même pas déranger l'animal et faire échouer une couvée. Enfin, je veux dire, c'est un minimum.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, je trouve que dans ce monde très actif, où ça brasse partout et tout, moi je trouve que c'est presque des actes politiques de se dire, ben allez, j'attends l'année prochaine.
C'est du temps de parole pour qui, ça? Non, pour personne.
Ça va, on est tranquille. Je sais bien. Qu'est-ce qu'il y a comme... bon, c'est le régime alimentaire principal. Vous le disiez, les marmottes, les petits lapins, les...
Dans les Alpes, ce sont les marmottes. Sinon, dans les coins où il n'y a pas de marmottes, ben, ce sont plutôt les lapins, justement, les lièvres et autres. Ouais. Et puis, il y a les lagopèdes, la perdrix des neiges, le tétra, le tétralyre, le coq de bruyère.
Et parfois des surprises.
Oui, ils peuvent attaquer des chats.
Ah oui.
Même des chats domestiques. Ils peuvent attaquer des chats domestiques en hiver. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'approcher des villages. Moi, je l'ai vu de mes yeux. C'est pour ça que je me permets de le dire. Mm-hmm. Un chat qui est en train de muloter tranquillement à découvert dans un champ de neige. Et paf, l'aigle l'attrape et le mange. Donc ça arrive. Et puis sinon, l'aigle...
Mais là, pardon, je vous interromps. Ça veut dire que l'aigle, il s'est rapproché de l'homme en faisant ça?
Ouais. Mais là, en
pourquoi
hiver,
il le fait?
Parce qu'il a faim. Ah oui. Et qu'il n'y a plus de marmottes. Parce que là, franchement, au mois d'octobre, quand les marmottes se mettent sous terre, c'est disette pour les aigles. Et là, ils deviennent justement même charognards. C'est-à-dire que si vous avez des chamois qui se sont fait prendre par des avalanches, justement, ou autres, ils vont manger des oiseaux morts. C'est-à-dire que c'est un chasseur, évidemment, mais c'est aussi un animal qui est opportuniste et qui peut s'adapter à toutes sortes de choses.
À quelle période de l'année les aigles vont se reproduire? Il y a un moment précis ou ça fait toute l'année?
Non, bien sûr. Il y a vraiment la période des parades nuptiales des amours qui est au mois de mars. Et même fin février, on insiste déjà à des accouplements, fameux vol en feston, protection du territoire, on va commencer à porter des branches au nid pour l'agrandir, puis on choisit le nid parce qu'ils en ont deux ou trois, ou quatre ou cinq selon les territoires, et puis on va changer de nid une année ou pas. Donc il y a tout ce choix et ces rituels entre les parents, entre les adultes. Là, si jamais le jeune de l'année d'avant est encore avec eux, c'est chaud bouillant parce qu'ils vont le virer complètement. Là, il va être... chassé du territoire. C'est là qu'on voit le côté territorial de ces oiseaux qui virent leur descendance parce qu'ils ne peuvent pas être trop nombreux sur le territoire. C'est très simple. Sinon, il n'y aurait plus de gibier. S'il y avait 10 aigles sur un territoire, ça ne marcherait pas. Donc ça, c'est très important. Donc au mois de mars, on vire tout le monde. Et puis après, on commence à pondre les œufs et à couver.
Qu'est-ce que les aigles ont changé chez vous?
Les aigles, c'est toujours pareil. On cherche un animal et on se retrouve soi-même, en fait. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que le fait de se retrouver seul, le fait de se retrouver dans ces conditions un peu difficiles, de bivouaquer longtemps, de dormir dehors, d'être loin de chez soi, d'avoir les problèmes hivernaux aussi, du climat et autres, ça permet de se surpasser, mais avec plaisir. Avec bonheur, quelque part. Et ça vous nourrit. Et donc, quelque part, moi, ça m'équilibre. Ça me permet aussi d'avoir une distance par rapport aux gens. Ça ne me rend pas du tout sauvage en me disant, dans le monde, tout le monde est naze et tout. Non, au contraire. Quand j'arrive, moi, j'ai envie de parler de mes choses, de les partager et de relativiser notre nombrilisme. Voilà, tout le côté humain, comme ça, un petit peu arrogant, qui a l'impression qu'il sait tout, qui est souvent hors sol, justement, parce qu'on est dans des... urbain, on est en dehors de la nature. Ça permet de relier tout ça et de le partager avec les gens.
Et c'est ce qu'on a fait avec vous, avec grand bonheur. Merci encore une beaucoup. Fois, Jean-Michel Bertrand. Vertige d'une rencontre, un DVD passionnant, magnifique à regarder, j'allais dire à lire, mais on peut le lire aussi des yeux.
Ben voilà.
Et qu'on trouve sur Internet. Et puis vous pouvez toujours aller voir La Vallée des Loups, votre très beau film qui circule encore en France. À très bientôt pour une nouvelle aventure.
Eh bien écoutez, ravi
vous êtes
de
d'accord
revenir. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord, j'adore.
C'est la fin de votre émission, mais avant de se quitter, vous avez l'habitude.
Dommage, c'était bien.
Oui, c'était bien, mais on offre des cadeaux. Vous allez pouvoir répondre à une question pour gagner un très beau livre de Daniel Cassigli-Alaster consacré à Jacques Prévert. Il s'appelle Paris Prévert, il est paru chez Gallimard. Vous pourrez gagner aussi un coffret de 3 CD des chansons de ce poète des productions Jacques Canetti.
Alors, est-ce que vous avez un papier et un crayon? Oui, non, sinon je vous laisse 5 secondes.
Même un ordinateur.
4,
hein.
3, 2, 1, 0. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes moderne, ça dingue.
Allez, voilà
la question. Quelle chanson écrite par Jacques Prévert a été adaptée plus de 600 fois en français et en anglais? Quelle chanson écrite par Prévert adaptée plus de 600 fois en français et en anglais? Voilà, vous pouvez nous envoyer votre réponse et vous la trouverez en réécoutant le podcast de l'émission sur RTL. C'était l'émission du 13 avril dernier. La réponse envoyée à la curiosité @rtl.fr.
On va tirer au sort le gagnant parmi les bonnes réponses et il remportera ce livre, Paris Prévert, et le coffret de 3 CD. Allez, bonne chance à vous dans un instant. Vous avez rendez-vous avec le grand studio d'Éric Jean-Jean qui reçoit Gaëtan Roussel. Bon après-midi les amis et à demain. RTL, il est 15h.